Sud Radio, thème de campagne.
Dans quelques minutes sur Sud Radio, nous ferons le point sur le problème de la pêche entre la France et la Grande-Bretagne. Mais avant cela, thème de campagne. Chaque semaine, un thème sur lequel vous serez peut-être amené à voter. Aujourd'hui, eh bien, on revient sur ce fléau du harcèlement scolaire. Bonjour à vous, Nora Fraisse.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Marion Fraisse, la main tendue. Marion Fraisse, c'est le nom de votre fille de 13 ans qui s'est donné la mort après avoir été harcelée par ses camarades au collège. Vous publiez également en ce moment la bande dessinée Camélia face à la meute. C'est publié chez Bambou Éditions. Cette semaine avait lieu la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron a promis quelques mesures comme le lancement d'une application pour dénoncer des faits. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous?
Pardon, une application pour dénoncer les faits. Non, il s'agit d'une application pour faire des copies d'écran en cas de cyberviolence, pour être très précis. Et donc, c'est a posteriori. Voilà.
Donc, ça arrive trop tard. Pour vous, est-ce que c'est
Je ne prends pas le cas de cette application. D'une manière générale, on a une politique a posteriori. Moi, je travaille sur l'a priori, sur la prévention.
Sur la prévention, justement. Alors,
faire une copie d'écran, je sais faire.
Ça, ben, tout le monde sait faire.
Empêcher le harcèlement, c'est ce qui est mieux.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Pardon, mais non, vous n'avez pas vous excuser. Vous avez malheureusement fait face à ce fléau, justement. Donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé de prendre la parole sur Sud Radio, Nora Fraisse. Justement, en France, on pêche par un manque de prévention face au harcèlement scolaire. Pourquoi?
Parce que c'est pas une politique nationale, c'est quelque chose de nouveau en France. Vous savez, on le sait même en matière de santé, d'une santé en général. Comme le harcèlement, c'est un problème de santé publique, de sécurité publique, d'éducation et de nation, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que moi j'ai participé à un programme qui s'appelle le programme PHARE, qui est un acronyme. C'est un plan de prévention du harcèlement à l'école. Plan de prévention du harcèlement à l'école. Alors voilà, il faut dire ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la base, dès la socialisation. Et là, on est dès le premier degré, dès 6 ans, à former à la fois les enseignants, les élèves, les parents, les accompagner, créer une plateforme numérique pour que chacun puisse trouver des solutions et faire de la prévention, voilà. Donc les annonces, elles étaient importantes, elles étaient intéressantes, mais on est toujours un peu dans la...
Elles ne suffisent pas.
C'est le début de l'histoire. En tout cas, ça s'appelle thème de campagne.
C'est ça.
C'est très important. Je suis assez ravie. Ça fait des années qu'on se bat pour que ce sujet soit un sujet national. Et cette année, j'espère que tous les candidats vont parler de ce sujet parce que c'est hyper important. C'est nos enfants. Je crois qu'on a réussi en France à parler du réchauffement climatique.
Oui.
En disant, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça. On ne peut pas abandonner notre tablette. On est responsable.
Bien sûr.
C'est normal. Tablette au lieu de planète. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on s'occupe aussi du numérique et de nos enfants dès le plus jeune âge.
Exactement. Parce que le harcèlement à l'école, ça a existé depuis toujours, mais ça a pris une ampleur complètement différente avec les réseaux sociaux et avec le monde du numérique, vous le dites. Alors, ça s'appelle Sud Radio, thème de campagne. Que pourrait faire le prochain président ou alors la prochaine présidente pour lutter de manière implacable contre ce fléau, des mesures concrètes qui manquent encore, Nora Fraisse?
Première chose, faire de la prochaine mandature le phénomène de harcèlement, en tout cas l'enfance, la cause nationale, mais l'enfance, c'est-à-dire un ministère dédié à l'enfance. Voilà, ça c'est très important. La nomination d'un secrétariat d'État chargé de ces questions-là, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y aura des moyens, qu'il y aura de l'argent, qu'il y aura du personnel. Sans argent, il n'y a pas de pouvoir, sans personnel, on n'a pas d'argent. Donc ça, c'est compliqué de travailler sur un sujet central qui nous manque. C'est pas de créer une nouvelle proposition de loi ou des outils à tout va. Vous savez, Jean-Michel Blanquer, il est venu inaugurer notre maison de Marion à Paris, la seconde, et il a dit quelque chose à la fin de son discours qui, pour moi, fondateur de notre mission à nous, c'est qu'il faut remettre l'humain au cœur de nos dispositifs. Et aujourd'hui, on s'est caché derrière des dispositifs en se disant, on va créer une appli. Moi, j'en crée une aussi, mais c'est un outil supplémentaire. Si vous ne remettez pas de l'humain, vous ne pouvez pas aller dans les écoles, vous ne pouvez pas les former. Ça, c'est très important. Et enfin, une dernière chose, au-delà de la cause nationale qui est très importante avec des moyens, il faut que la justice passe. Nous avons 5 lois et aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Les enfants meurent, les enfants sont meurtris, les parents sont démunis. Ils n'osent même pas porter plainte, vous savez pourquoi? Non pas parce qu'ils ont peur de la justice, parce qu'ils nous disent « ça sert à rien comme d'habitude, il n'y aura pas de procès, il y aura des classements sans suite et j'ai pas les moyens ». Donc peut-être que une des premières mesures phares, peut-être c'est celle-ci, c'est de s'engager à ce que les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, ils fabriquent ce qu'ils veulent, ils ont raison, mais qui prennent leur responsabilité. Juste une chose, vous vous souvenez, moi je suis un peu âgée, mais on a réduit fortement les problèmes de sécurité routière. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux constructeurs, vous savez quoi, on va créer des nouvelles routes, mais vous allez vous occuper de sécuriser vos véhicules et vous serez responsable.
Et on a aussi été dans tous les collèges, je faisais partie de ces collégiens et lycéens, ou de ces lycéens, justement, pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévention. Et il se trouve qu'après, nous, on a presque tous connu aussi des camarades de classe ou de collège qui ont eu des accidents de la route. C'est vrai que ça avait aussi, malheureusement, fonctionné dans notre esprit. Merci beaucoup, Nora Fraisse.
Voilà, merci
et
à
bon
vous.
Courage.
Et juste une chose, si on est personne victime, on peut appeler le 30-20 ou son référent académique.
Exactement, le 30-20 ou alors le référent académique face au harcèlement scolaire. C'est très important, Nora Fraisse. On le rappellera jamais assez et on en reparlera cette année sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Marion Fraisse, La Main Tendue, et qu'on peut se procurer la bande dessinée que vous publiez aux éditions Bambou, qui s'appelle Camélia face à la meute. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On va en parler du conflit de la pêche entre la Grande-Bretagne et la France. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Bon samedi matin sur Sud Radio, il est 7h31.
Sud Radio. Parlons vrai.
Les infos Sud Radio, Jeanne Billard, bonjour à vous.
Bonjour à tous. La cinquième vague épidémique se confirme en France. Selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés hier, près de 8000 personnes sont hospitalisées, dont plus de 1300 en soins critiques. 21 000 contaminations supplémentaires ont été recensées en 24 heures. Dans ce contexte, la Haute Autorité de Santé recommande l'élargissement de la dose de rappel. Elle préconise de rendre la troisième injection accessible aux plus de 40 ans, 6 mois après la première piqûre. Une recommandation qui sera étudiée prochainement prochainement, a annoncé le ministre de la Santé sur Twitter. Olivier Véran qui rappelle également l'ouverture de la troisième injection aux plus de 50 ans dès le début du mois de décembre. En parallèle, la Guadeloupe placée en couvre-feu, interdiction de sortir entre 18h et 5h jusqu'à nouvel ordre. Décision hier soir du préfet face aux actes de vandalisme en marge d'une mobilisation qui dure depuis 5 jours. Un mouvement lancé par des syndicats et des organisations citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Une enquête ouverte contre un groupuscule d'extrême droite pour menaces de mort et provocation à la haine ou à la violence, annoncée hier du parquet de Paris. Il y a 2 semaines, la chaîne Telegram « Les vilains fachos 2.0 » avait publié un photomontage de 9 portraits avec une cible sur le front et un nombre de points associés. Parmi les personnalités ciblées, Jean-Luc Mélenchon, Anne Frank ou encore le journaliste Taha Bouaf. L'appel au calme du président américain suite à l'acquittement d'un homme accusé du meurtre de 2 manifestants antiracistes. Kyle Rittenhouse a été déclaré non coupable hier par un tribunal de l'État du Wisconsin au terme d'un procès très suivi. Il était mis en cause pour avoir tiré sur 3 personnes lors d'une mobilisation du mouvement Black Lives Matter en août 2020. 2 d'entre elles avaient succombé à leurs blessures. Joe Biden s'est dit en colère et inquiet sur Twitter face à ce verdict, mais demande aux Américains d'exprimer leurs opinions pacifiquement. Et puis du foot avec le début hier soir de la 14e journée de Ligue 1 et Lille a finalement concédé le match nul face à Monaco. Les Lillois qui menaient pourtant 2-0 après 9 minutes de jeu. Score final de partout. Bonne journée à tous.
Bonne journée à vous aussi Jeanne Billard, merci beaucoup.
La météo Sud Radio.
Une bonne journée, mais la météo Sud Radio nous annonce que c'est plutôt mitigé, hein, Yaya André.
Oui, tout à fait. On observe pas mal de nuages bas et de brouillard dans la moitié nord, jusque du côté de Lyon, ainsi que dans les vallées de la Garonne et l'Aquitaine, alors que le soleil est déjà présent autour de la Méditerranée et sur les plages corses. Le ciel reste assez nuageux aux alentours de Paris, Lille et Strasbourg, où il pourrait tomber même quelques gouttes dans la journée. Dans la moitié sud, les nuages devraient se dissiper un peu et donner de belles éclaircies à Toulouse, Perpignan ou bien encore Nice. Le ciel se dégage sur les reliefs, notamment dans les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, où le soleil domine toute la journée. Le mercure affiche des minimales de 0 à 7 degrés en général et des maximales de 19 à Ajaccio, 15 à Perpignan et Toulouse et 11 à Paris et Lille.
Merci à vous, Yaya André. Les pronostics épiques de Sud Radio. Aujourd'hui, Jean-Paul Delperrier vous conseille de jouer le 9, le 10, le 6, le 7, l'As, le 3, le 13 et le 15. Je répète, le 9, le 10, le 6, le 7, l'As, le 3, le 13 et le 15. Des pronostics épiques que vous pouvez retrouver comme chaque jour sur sudradio.fr.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bon samedi matin à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Dans quelques instants, ça va mieux en le disant avec le docteur en psychologie Jean Dorido. Il reviendra sur la COP26. Pourquoi c'est toujours plus facile de parler de coopération plutôt que de la pratiquer? Le psychologue vous expliquera tout ça. Mais tout de suite, on se penche sur la bataille de la Manche.
Sud Radio, on décrypte le monde.
Bonjour Christian Macarian.
Bonjour.
Éditorialiste, spécialiste de politique internationale. Nous ne lâcherons pas nos pêcheurs, a déclaré hier Emmanuel Macron. Pourtant, la veille, la ministre de la Mer, Annick Girardin, avait annoncé un plan de sortie de flotte. En clair, des indemnisations pour les pêcheurs français qui seraient chassés des eaux anglaises et enverraient leurs bateaux à la casse. Christian Macarian, il y a 2 semaines, la France bombait le torse. Elle menaçait de couper carrément le courant à l'île de Jersey si tous les pêcheurs français n'obtenaient pas de licence dans les eaux anglaises. Est-ce que ça veut dire que la France a déjà commencé à se coucher?
Pas nécessairement. Ça veut dire que c'est une méthode de négociation pour avancer dans la discussion. Il est certain que les pêcheurs français sont victimes, comme pris en otage, d'une partie de bras de fer politique entre le gouvernement de Boris Johnson et les autorités françaises, dans laquelle les pêcheurs sont complètement innocents. Pour Johnson, le conflit de la pêche, c'est la démonstration qu'il a réussi son Brexit et qu'il a taclé, si j'ose dire, l'Europe. Et la France est en première ligne au sujet de la pêche. Je rappelle un détail symbolique qui n'en est pas un. Sur la cravate qu'arbore Boris Johnson le soir où il proclame la victoire du référendum sur le Brexit, il y a des poissons.
Oui.
C'est une manière de dire que le conflit de la pêche est pour lui le critère de réussite du Brexit. Donc là, les pêcheurs français sont victimes, complètement victimes, d'une grosse partie politique.
Mais pourtant, la France avait négocié, l'Europe avait négocié pour que les pêcheurs français qui avaient l'habitude de pêcher dans les eaux anglaises puissent continuer à le faire.
Alors, vous avez tout à fait raison. En vertu de l'accord signé en 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens avaient le droit de continuer à pêcher et à travailler dans des eaux britanniques, puisque les eaux britanniques, par l'effet du Brexit, se sont étendues, d'accord ? Se sont déployées. Mais les Britanniques ont mis une seule condition, et c'est là que le jeu des Britanniques est très vicieux. Ils ont dit, à condition, les pêcheurs européens, en particulier français, pourront continuer à pêcher dans les eaux britanniques, à condition de prouver qu'ils pêchaient auparavant. Mmh. Or, sur ce « pêchaient auparavant », il y a les navires qui ne sont pas enregistrés comme les Britanniques le souhaitent, ceux qui ne disposent pas de l'assurance. Enfin bref.
Les Anglais nous ont roulé, quoi.
Les Anglais sont en train de nous rouler dans la farine en essayant plutôt de nous tromper, clairement, en essayant de multiplier les tracasseries administratives pour limiter le nombre de pêcheurs français. À ce jour, juste un chiffre. Les Britanniques ont accordé 220 licences de pêche définitives. La France, qui a abaissé déjà ses demandes, qui a nettement abaissé ses demandes, en réclame encore 150.
C'est ça.
Et tout le conflit porte sur ça.
Donc, on est encore loin. Un dernier mot, Christian Macarian, ce sera ma dernière question. Est-ce que la France a des mesures de rétorsion qu'elle pourrait lancer quand même ? Après tout, nous aussi, on pourrait faire des tracasseries administratives.
Alors, la France, elle serait déjà mieux aidée si la commission à Bruxelles l'appuyait.
Oui.
Et apparemment, de ce côté-là, c'est mou. Mm-hmm. Macron comptait beaucoup sur ça, mais l'appui est assez mou. Deuxièmement, s'il y a des rétorsions, elles ne pourront pas nécessairement concerner le domaine de la pêche. Il faudra aller chercher des rétorsions sur d'autres dossiers, ce qui sera compliqué à expliquer. Donc, quelque part, cette montée de tension... qui malheureusement profite en termes de popularité à Boris Johnson, quelque part, elle n'est pas bonne pour le dossier français.
Et elle n'est pas bonne non plus pour Emmanuel Macron en pleine année présidentielle. Merci à vous, Christian Macarian, éditorialiste et spécialiste de politique internationale. On reviendra sur la crise lancinante entre la France et la Grande-Bretagne depuis le Brexit. Restez avec nous, parce que tout de suite, justement, tiens, on va parler d'un autre aspect, celui des négociations entre différents États. C'est avec Jean Dorido.